de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des autres. On se reparle demain après-midi, 14h, pour Gravel dans le retour.
Salut!
Bye.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Le soir. Le soir.
Salut les amis, bienvenue dans le podcast de Marceau le soir. C'est un plaisir d'être avec vous chaque soir avec les invités qui sont meilleurs les uns que les autres. C'est toujours le fun, merci d'être là. Ce soir, on parle de chasse et de pêche avec un expert en chasse et pêche. Son nom, c'est Martin Bourget. Il est aujourd'hui le président du groupe Aventure Chasse-Pêche qui produit plein de choses, dont des émissions de télé. Et c'est franchement intéressant. Puis ce soir, ben, il produit avec moi une émission de radio. Comment ça va, mon ami?
Bien, toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, là.
Ça fait longtemps, puis j'ai pensé à toi en fin de semaine. Sais-tu pourquoi?
Ben, parce que tu t'ennuyais de moi, première des choses. Tu peux le dire publiquement, tu as
bon,
le droit.
Bon, il y a peut-être ça, là. Je m'ennuyais de Kate, qui très souvent, ou trop souvent, est accompagnée de son conjoint, qui est Martin Bourget. Mais oui, j'ai pensé à toi en fin de semaine pour ça. Mais le long du fleuve Saint-Laurent, j'ai eu la chance de passer le long du fleuve Saint-Laurent, puis j'ai vu les gens s'entraînant en canot sur glace.
Oui.
Puis je me suis passé comme réflexion, tu sais, actuellement, à ce temps-ci de l'année, là, bon, fin janvier, début février, là, quoi, on est le 10 février, 14 jours, c'est la Saint-Valentin, il va falloir que tu y penses, t'achètes tes cadeaux. Mais je me suis dit, hey, c'est courageux en tabarouette d'aller en milieu du lac pour pêcher ton poisson ou d'aller dans le milieu du fleuve pour faire du canot. L'importance, tu nous l'as souvent dit, là, l'importance d'être bien équipé pour faire le hobby qu'on veut ou le sport qu'on veut, c'est primordial. Mais à moins 20, Martin, tu fais quoi pour aller faire de la pêche sur glace?
La même affaire que les gars qui font de la motoneige. Tu mets un coup de motoneige sur ton dos.
That's it.
Nous autres, là, c'est bien simple. Tu sais, je veux dire, là, c'est pas. Je veux pas mettre de marque là-dessus, là, mais vous les voyez partout. Là. Tout le monde sont dans des One Piece FXR. De un, on est au chaud là-dedans. On a juste une paire de combines en dessous.
Ouais.
De deux, tu sais, les nouvelles technologies sont épantes parce que, tu sais, la pêche à la glace, il y a une grande peur du public que la glace cède sous leurs pieds. Bien, va chercher des vêtements spécialisés motoneige. Les vêtements, mettons, comme la gamme FXR, ils sont spécialisés pour que si ça défonce puis tu tombes dans l'eau, ça va t'assurer une flottabilité pendant un bon bout de temps qui va probablement sauver ta vie. Fait que là, tu te ramasses dans des vêtements chauds. C'est pas écrit pêche dessus, c'est pas écrit poisson des genoux, c'est pas écrit truite mouchetée dessus. Mais c'est le meilleur vêtement que tu peux aller chercher. Tu sais, ils fabriquent des mitaines puis des gants avec carrément en cuir, ça passe pas au travers. Ils se font des, tu sais, Confortech, une entreprise québécoise, font des kits chauffants pour mettre là-dedans qui sont super efficaces. Oubliez petite pochette, non? Aujourd'hui, on est rendu avec une batterie, des fils, puis ça chauffe partout en même temps. Là. Il y a moyen d'avoir de très belles journées, même au mois de février, au gros vent sur le fleuve, en train de jiguer le doré, même si tu n'as pas une cabane à pêche, ouais, d'être bien équipé, d'être bien enveloppé. Enveloppé comme un goaler de hockey, mais tu vas être bien.
Utilisez-vous votre gang, là, votre gang d'exceptionnels. Utilisez-vous des vêtements avec des batteries pour que ça puisse chauffer et tout ça? Ouais, pas mal. Ça vous occasionne pas de l'humidité dans vos vêtements?
C'est une question de gestion. Si je te donne un exemple, souvent les gens ils regardent avec une face bizarre. Ils nous disent, bon, j'ai de la misère à gérer ma chaleur, par exemple, au niveau des pieds, je gèle les pieds. OK, tes changements de bas, tu les gères comment? Mes changements de quoi? Quand est-ce que tu changes tes bas? Ben, je ne change pas mes bas, il fait froid dehors. Non, tu n'as pas idée comment est-ce que, après avoir fait ta marche jusqu'à ton affût ou encore la place que tu vas pêcher, de prendre le temps de retirer ta botte, de mettre un bas sec dedans ou un feutre sec dedans, ça va tout changer. Et justement, et on parle de gestion d'humidité, quand tu as des vêtements qui sont performants, fait qui vont perspirer, qui vont laisser sortir ton humidité, c'est là où est-ce que ton vêtement chauffant, tu vas l'utiliser. Quand tu arrives à ton spot de pêche ou de chasse, tu vas clencher tes vêtements chauffants pour sortir l'humidité de là. Après ça, tu redescends puis tu gardes tes batteries pour mec, tu recommences à avoir froid. Mais c'est justement pour nous aider à gérer cette humidité-là qu'on va utiliser. Les vêtements chauffants, Mais attention, encore là, c'est comme n'importe quoi. Il existe des trucs à 9,99 puis il existe des trucs à 119,99. Il y a des trucs dans le milieu, puis il y a une raison pour laquelle il y en a qui valent 9,99 puis il y en a qui valent 119,99. Vous avez des fabricants québécois qui en font pour la motoneige. Confortec en est un, parmi tant d'autres.
Ouais.
Il y a beaucoup d'autres fabricants qui, dans les magasins de chasse et de pêche ou encore dans les magasins de motoneige, faites-vous conseiller, là. C'est rendu, ils sont organisés avec des vêtements, là, à partir des bas, en passant par les bottes, le pantalon, la soute au complet, la tuque, les gants, tout est chauffant. Puis c'est un fil qui gère tout, dans certains cas, qui est fait pour brancher dans le motoneige. Il y a des adapteurs pour avoir des batteries aux ions de lithium avec nous autres. Avec ça, c'est super facile. Sinon, écoute, t'as des kits de vêtements maintenant. Là, le nom, la marque m'échappe, là, mais entièrement contrôlable par ton téléphone cellulaire. C'est-à-dire que tu peux vraiment contrôler le bas gauche, le bas droite, la botte gauche, la botte droite. Il y a des vestes pas de manches chauffables. Tu mets un manteau chauffant par-dessus ça. Aujourd'hui, là, si vraiment tu veux aller pêcher au gros vent, sur le fjord, puis t'as pas de tente, il y a moyen de t'équiper pour que tu passes une journée plaisante malgré le froid qu'il fait dehors. Oui, tu vas avoir des batteries à changer. Les changements de bas, moi, je les recommande, surtout quand on arrive sur place. Tu viens de faire 2 heures de char pour te rendre à ton spot au fjord ou quoi que ce soit. Change tes bas. Puis idéalement, chauffe pas ton char avec les bottes avec lesquelles tu vas pêcher. Ça change-les une fois arrivé sur place.
Ouais. On est-tu rendu trop memaire? Mettons qu'on avait la machine à voyager dans le temps là, depuis que le monde est monde. Et les coureurs des bois de l'époque embarquent dans cette machine-là puis nous entend jaser de ça, des vêtements chauffants en 2026. Là. Ils nous trouvent-tu memaire un peu? Ils nous trouvent-tu momoun un peu?
Je veux dire, on est rendu très lymphatique. Hein. On bouge pas, on fait pas grand-chose. Ouais. C'est courant. Et moi, tu le dis, il nous regarderait aller et il dirait, ben, probablement qu'il nous dirait, ben, sois actif, bouge, tu sais, bouge, puis t'auras pas fret.
Ouais. Et
on n'avait pas ces technologies-là. Bien souvent, c'était des vêtements en lainage. L'air passait là-dedans comme ça n'a pas de bon sens. Puis au bout du compte, je pense qu'on avait une société qui était beaucoup plus tolérante qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on a un confort sur tout. Tu rentres dans ton char, tu le pars à distance, ton bain, il préchauffe, ton volant, il préchauffe pas que tu aies froid aux doigts. C'est sûr que quand tu arrives dans des conditions hivernales, les petites bébites très, très, très princesses qu'on est, on ressent beaucoup plus le froid que ces gens-là qui avaient juste à faire avec. Mais eux autres avaient le droit de chauffer au bois.
Oui, t'as raison. Il y avait le droit de chauffer au bois, puis ça nuisait pas à personne, du moins à l'époque. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'avais... Ben, en fait, je l'ai toujours, le grand-père de mes enfants, qui est un entrepreneur en construction, puis lui, c'est un travailleur autonome. Il travaillait souvent seul, puis il faisait des toitures de maison. Puis quand il était appelé pour des urgences, là, à l'automne puis l'hiver, parce qu'il y a eu un dégât d'eau, puis le toit coulait, lui, il s'habillait en oignon. Puis j'y demandais toujours, mais... Comment vous faites, parce que je le vous voyais, il est assez vieux, c'est pas vrai, il a 60 ans, mais je dis, comment vous faites pour travailler toute la journée à l'extérieur, alors que moi, j'étais avec mon gros parka, puis là, brrr, j'ai les petits bouts durs, puis ça me stresse. Lui, il travaillait toute la journée, du matin jusqu'au soir, puis il me disait, c'est bien simple, le plus gros déjeuner possible, tu manges pas de la journée, puis t'arrêtes pas, jusqu'à temps que tu finisses ton corps de travail à 16h, 16h30. Puis au moment où tu finis ton corps de travail, tu places tes affaires, tu t'en vas dans ton char, puis là, tout lâche. Mais ça vient en oignon.
Oui. Bien, le multicouche, le principe de multicouche, c'est le principe le plus formidable qu'il n'y a pas. Avant, on achetait une grosse soute.
Ouais.
Donc, les chasseurs, entre autres, les chasseurs achetaient des 3 dans 1. C'était un paquet de manteaux qui se zippaient un par-dessus l'autre, puis ça, c'était leur couche. Aujourd'hui, on appelle ça des spongy towels, tellement ça absorbait l'humidité, puis s'il y avait une goutte de pluie, on dirait que la pluie courait après, c'est incroyable. Ouais. Aujourd'hui, on a des principes multicouches qui sont hyper performants. C'est un petit peu plus coûteux dans certains cas quand tu vas aller dans le haut de gamme, mais ça démarre avec le sous-vêtement, là, vraiment tes combinaisons, comme on appelle. On n'est plus au Panman 95 avec le panneau détachable en arrière pour aller à la toilette. Là. Aujourd'hui, on est rendu avec des sous-vêtements, soit en laine de mérino ou encore en synthétique, mais qui sont... Ce sont des couches qui sont rendues des experts à prendre l'humidité de ton corps puis à le garrocher à l'extérieur, à ne pas le tenir proche de ta peau. Fait que si tu as une couche de base qui est performante, que tu as un deuxième vêtement d'appoint qui est aussi performant dans le sens de garrocher ton humidité vers l'extérieur, puis un survêtement qui est un bon coupe-vent, puis qui soit va venir, bien souvent, là, la deuxième couche entre les deux, on va prendre du Primaloft ou quelque chose comme ça. C'est prenant en note, là, Primaloft, hein, c'est une technologie qui est excessivement efficace. Et là, il y a plein de marques là, qui livrent du Primaloft là, partout, partout dans le vêtement de plein air, autant que dans le vêtement de chasse et de pêche, dans le vêtement de ski. Là. Ça, c'est la couche entre deux. Puis la coquille qu'on va mettre par-dessus, bien, on veut une coquille qui va nous protéger des intempéries. Et ça, c'est votre bouclier qui va bloquer le vent, qui est un facteur de refroidissement important. Mais il va falloir qu'elle laisse quand même passer l'humidité parce que là, tous les vêtements que vous avez mis sur votre corps, leur job, c'est de prendre l'humidité qui est proche de votre corps puis de la sortir. Bien, il faut que la dernière couche, elle soit résistante au vent, résistante à l'eau, mais il faut qu'elle soit, et là, on va mettre un mot là-dedans, perméable. Elle doit permettre à l'humidité qui est à l'intérieur de sortir. Elle doit respirer sans laisser rentrer l'air. Oui, le multicouche, c'est hyper performant. Puis si là-dedans, tu ajoutes des éléments qui sont chauffants, pour venir t'aider à gérer cette humidité-là quand tu es en activité hivernale. Puis là, on ne parle pas là, d'aller... Je vous parle pas d'aller à la poste, gang. Là. On parle pas d'aller porter les vidanges, d'aller à la poste. Non? Je vous parle de rentrer sur un lac en même temps que le soleil se lève puis de rentrer le soir, là, une fois qu'on a flashlight, là, parce que le soleil est couché. Là. Vous voulez passer une belle journée, avoir du fun puis pas avoir besoin de rentrer vous réchauffer. Ça, c'est la façon d'opérer. Un peu comme quand on chasse dans l'Ouest canadien en late season là, pour le cerf de Virginie, entre autres. Là. Écoute, il y a même des sleeping bags chauffants qui se vendent. Là. C'est des momies chauffantes qui se vendent. Là. Les gars s'installent là-dedans. Il y a un battery pack avec ça pour être capable de toffer la journée à la chasse dans une cache immobile parce que, au contraire du coureur des bois que tu parlais tantôt, il ne bougeait pas.
Exact. C'est ça qu'il me disait. Là. Lui, c'est un entrepreneur en construction, donc tu comprends que quand il devait travailler, il travaillait toute la journée, il n'arrêtait pas. Fait qu'il s'habillait en oignon. Puis c'était sa façon pour lui de pas geler. T'sais. Mais moi, j'arrivais avec mon gros manteau puis je me disais, mais comment il fait pour travailler dans ces circonstances-là toute la journée? Mais c'est des vrais jobs. Là. C'est pas une job de bureau comme moi j'ai là, à travailler dans mon studio. Hey, des fois, là, c'est l'été puis je me plains qu'il fait chaud dans mon studio. Puis là, je me dis, attends un peu, ceux qui font de la couverture ou ceux qui font de l'asphalte à l'extérieur, eux autres, c'est des vrais jobs. Fait qu'arrête de te plaindre, Marceau, puis... continue de travailler. Ben, c'est ça. Souvent, il faut que tout le temps que tu penses à eux autres. OK. Hey, rentrons dans le vif du sujet. Je vais aller sortir mon article, si tu le veux bien, qu'on devrait voir à l'écran, toi et moi. Le programme fédéral de rachat des armes prohibées est en marche, est bel et bien en marche. On est là-dedans. Ça fait des années, toi et moi, qu'on parle de ça. Là, on est en plein dedans. Je vais te poser une question bien personnelle, Martin. Là. Puis là, je veux juste te dire que tu as 5 secondes. Tu as 2 secondes pour répondre, pas plus que 2 secondes. Quand est-ce que toi, qui es chasseur depuis l'éternité, tu es propriétaire d'armes à feu, tu as tes permis d'acquisition d'armes de possession et tout ça, quand est-ce que toi, tu as vendu des mitraillettes aux gangs de rue? Ça date de quelle année, ça, ces affaires-là?
Jamais.
OK. Puis pourquoi on fait un programme de rachat des armes à feu? C'est pour enlever aux gangs de rue les armes qui ont des mains?
Ben non, et c'est ça, c'est là que le bas blesse. Yannick, tu l'as dit, on en a parlé pendant des années, puis tous les comités permanents sur la sécurité publique avec les témoins experts ont statué très clairement que 99 % des armes qui commettaient des crimes provenaient du milieu criminalisé.
99 %, ça c'est le chiffre à retenir.
Et ça là, ce que je te dis, là, c'est, à un moment, on peut parler des émotions, là, on va parler de mathématiques.
Exact.
Ça, c'est les chiffres de l'Institut de la statistique du Canada. Les chiffres de l'Institut qui appartient au gouvernement qui vous dit, tiens, pour barrer le crime, pour cesser le crime, pour contrôler le crime, ce qu'on va faire, l'Institut de la statistique du Canada qui m'appartient vient de me dire que 99 % des crimes proviennent des milieux criminalisés, puis qu'il y a 1 % d'occurrences qui sont des armes légitimement détenues par des propriétaires qui ont les permis pour ces armes-là. C'est 1 % des crimes. Bien, comme solution, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va racheter les armes du 1 %. On va laisser aller le 99 %. Alors là, on est rentré dans une saga qui est très idéologique. Point final. Et tu sais, on n'embarque même plus dans l'expiation de « Ouais, mais Martin, il y a un AR-15. Qui a besoin d'un AR-15? Il y a l'AR-15 dans la liste. » Attends une minute, là. Est-ce que l'AR-15, légitimement détenu par un propriétaire d'armes à feu, a commis un crime dans l'histoire de la criminalité au Canada? Ça, c'est la question à poser. La liste sur laquelle on se bat depuis le début, c'est un débat qui ne devrait même pas exister. Il devrait y avoir une liste qui dit « toute arme criminalisée ou non légitimement détenue, that's it, that's all ». On se réjouissait au départ que notre gouvernement allait mettre en place des mesures pour faire de la répression sur la criminalité armée, puis on était les premiers à dire « yes, on va vous aider à bâtir tout ça ». Là, on saisit des armes chez les particuliers. Donc, on est en train, là, la population doit comprendre. On a déjà 1,3 milliard de mis dans ce dossier-là. On vient d'annoncer 750 millions pour le programme de rachat d'armes à feu. On est rendu à 2 milliards passés dans les poches du contribuable pour n'affecter qu'1% de la problématique. Ça, c'est une première chose que vous devez comprendre. La deuxième chose que la population doit comprendre, c'est bien beau vous mettre un leurre, là, qui est les armes à feu, qui vous fait bouffer ce dossier-là super facilement à matin, à soir, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez l'émission que vous écoutez présentement. Hein. Mais au bout du compte, on est en train de créer un précédent en vous mettant un leurre, les armes à feu, d'en face. Un précédent qui donne le droit à un gouvernement de déposséder un citoyen d'items, oubliez les armes, là, d'items légitimement acquis sans qu'il soit criminalisé. Je te donne un exemple. On avait une électrification du parc automobile qui était prévue pour 2030. Ça a comme été mis de côté. Là. Ça revient, cette histoire-là, mettons. Là. On laisse passer la possibilité pour un gouvernement de nous déposséder de nos armes qui n'ont jamais rien fait. En 2030, ça revient, on vous dit, on va vous prendre vos pick-up. Ben non, on ne te prendra pas. Attends un petit peu, on a une jurisprudence. On a un précédent. On l'a fait. Vous l'avez accepté. On l'a. Ça, c'est ce que vous frontez. Ça, c'est ce que la population doit comprendre. On a promis à un peuple de le protéger contre la criminalité armée. Consciemment, on n'adresse qu'1% du problème en prenant 2 milliards d'impôts du contribuable puis en laissant sur la table un précédent jamais vu en dehors des histoires de dépossession terrienne pour l'établissement d'autoroutes, du parc du Bic dans le passé, etc. Mais justement, là, dans le temps, il y a longtemps, au moment où on a dépossédé des gens pour créer le parc du Bic, ça a créé un précédent. Puis aujourd'hui, le gouvernement peut vous déposséder de vos terres pour passer une route sur votre maison. Hein? Ça, c'est ce que c'est. Bien, c'est la même chose dans ce cas-là. Si on permet au gouvernement de venir chercher des items dans ma maison que j'ai légitimement acquis, on vient de créer ce même précédent-là. Aujourd'hui, c'est les armes. Demain, demandez-vous, c'est quoi?
Tu sais, je pense à ça, là. On a eu des tragédies qui impliquaient des armes à feu au Québec, puis on trouve ça tragique, puis tu sais, c'est sûr et certain que ça marque à vie, puis j'ai jamais été victime de rien, là, mis à part peut-être d'une défaite du Canadien de Montréal que les Canadiens méritaient pas, mais j'ai jamais été victime. Fait que je sais pas comment les gens peuvent se sentir quand ils ont été victimes, puis ça impliquait des armes à feu. Mais ce truc-là qu'on met en place, ça va beaucoup trop loin. Puis, tu sais, tu l'as dit, tu as parlé des pourcentages, là, des armes qu'on retrouve dans les mains des vrais criminels. Là. C'est 99 % de ces armes-là qui n'ont pas été acquises de façon illégale. C'est des armes qui sont illégales, qui passent par les frontières, qui passent dans certains territoires où c'est peu ou pas surveillé par la Gendarmerie royale du Canada ou par la Sûreté du Québec. Et on vous retire ces armes-là comme si vous étiez des criminels. Je trouve ça juste hallucinant. Ça a dû te faire rire, on s'en est pas parlé, toi puis moi, mais on a fait une modélisation parce que le monsieur Orange, de l'autre côté, nous laissait craindre le pire, c'est-à-dire de s'attaquer au Canada. Donc, on a fait une modélisation, puis on a dit, advenant le cas où nos amis, les voisins, les Américains, devenaient méchants et voulaient envahir notre pays, ils pourraient envahir notre pays en combien de temps? Et là, parmi les pronostics positifs, c'est à peu près une semaine, mais ce serait plus réaliste 2 jours. Et ce qu'on nous a dit pour tenter de résister contre les méchants Américains, selon eux, faudrait aller dans les montagnes et employer les mêmes techniques que les talibans en Afghanistan. Mais tu veux y aller avec quelle arme? T'es en train de déposséder tous les Canadiens de ces armes à feu-là.
Ça m'a pas juste fait rire, ça l'a amélioré ma régularité de manière très symbolique. Comme ça, on va être poli. Quand je vois mon premier ministre annoncer en trombe qu'il va former 300 ou 400 000 fonctionnaires fédéraux à la conduite de VBL, des véhicules blindés légers, de tir avec des armes militaires, puis de stratégie de déploiement, puis etc., des gens qui sont des bureaucrates. Je ne sais pas de quelle façon et pourquoi on sacrifierait des gens comme ça, juste pour augmenter les chiffres. Et là, à la vue de la confrontation de certains grands médias dans le Canada, eh bien, il a plané dans les coulisses du Parlement à Ottawa. Mais oui, mais et si on demandait aux propriétaires légitimes d'armes à feu de plaider un serment comme les radios amateurs, lorsqu'on leur remet une licence de radio amateur qui dit, ben, en cas de catastrophe, tu prêtes serment de prêter tes connaissances en communication et ton équipement à la reine, hein, ben, au roi présentement, au Commonwealth. Et si on faisait prêter serment à ces chasseurs et tireurs sportifs-là, ben oui, mais gang, après avoir fait la chasse aux démons, après avoir donné le pouvoir à un lobby de nous déposséder de la façon dont ils le font présentement de manière complètement illégitime, mais que pensez-vous que les chasseurs, les tireurs sportifs et les collectionneurs vont répondre à un gouvernement qui, j'ai tenté de te retirer tout ce que tu as sans que tu aies commis de faute, mais là, je te demande de t'en servir pour venir me défendre. Ça se peut qu'il y ait volte-face dans le dossier. Là. Ça se peut qu'il y ait volte-face. Là. On est la ligne de front en matière de sécurité dans le domaine des armes à feu. On est ceux qui ont répondu au gouvernement à dire « Fine, vous voulez mettre des lois pour faire de la répression sur le milieu criminel en matière de criminalité armée. Nous, on a les connaissances pour vous aider à appliquer des lois qui vont être efficaces à épauler les forces de l'ordre en identification d'armes, en potentiel meurtrier, en tout ce que tu voudras. On a tout ça. On met la boîte à lunch à la table pour vous aider. On est all-in parce qu'on est tous, d'abord et avant tout, des êtres humains, des pères de famille. On comprend la problématique, on comprend la hausse de criminalité et on veut mettre nos connaissances sur la table au comité permanent sur la sécurité publique pour vous aider à bâtir cette loi-là. Et on nous a fait ce qu'on vient de nous faire. On nous a dit en tant qu'être humain, ouais, mais finalement, tu sais, tes enfants là, qui se promènent dans les rues présentement, là, ben, 99 % des chances qu'ils se fassent tirer ou abdicter ou qu'est-ce que tu voudras, là, on gérera pas cette partie-là. Mais toi, ton arme pourrait potentiellement être dangereuse parce qu'elle a déjà été utilisée dans les méfaits, dans sa version criminalisée. Fait qu'on va te la retirer. On va dire, OK. Et puis là, au bout de la ligne, on arrive avec des rumeurs qu'on me demanderait d'aller te défendre au front avec mes connaissances. Alors, on revient en arrière. Mais malheureusement.
Avec des méthodes de talibans.
Mais oui, malheureusement, le doigt d'honneur lève assez rapidement. Puis à la limite, la crainte lève encore plus. Et là, tu regardes le gouvernement, tu fais comme. Mais avec tout le génie stratégique que vous êtes en train de démontrer publiquement dans la façon de mettre tous ces gens-là qui pourraient vous aider à dos du gouvernement et monter la population contre ces gens-là, mais comment pensez-vous pouvoir les rentrer dans un système utilitaire alors qu'on a essayé, on s'est ouvert, là, livre blanc, on a inscrit nos armes, on est allé sur les CQ meetings, on vous a tout donné. Et finalement, on s'est fait faire la passe pas de pantalon, hein?
Ouais, la petite passe du coyote. Puis dans un article que j'ai lu cette nuit, c'est un article qui a été écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Si vous possédez un permis de possession et acquisition d'armes à feu émis par le gouvernement fédéral, vous allez certainement recevoir un avis concernant le fait que le programme d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut est en cours. Ce qu'on nous dit, c'est que tous les propriétaires d'armes à feu sont concernés. Si ces derniers possèdent des armes qui sont incluses dans la liste définie par le fédéral, ils auront jusqu'à la fin mars pour s'inscrire au programme, déclarer leurs armes et devenir éligibles pour un rachat. Les gens qui veulent avoir une somme d'argent ont jusqu'au 31 mars pour agir. Les gens qui ne le feront pas vont pouvoir profiter d'une période de grâce jusqu'au 31 octobre. Passé cette date, la personne devient en infraction à la loi. Et au Québec, c'est la Sûreté du Québec qui va devenir responsable de votre dossier. On dit que c'est eux qui pourraient cogner à votre porte si des gens, et même s'ils peuvent vérifier si les armes qu'elles ont que vous avez en votre possession sont légales et il pourrait y avoir des saisies. Ça pourrait être considéré comme criminel. Et sur la liste des armes prohibées, Martin, je pense que c'est important d'aller la voir, cette liste-là. Ça touche 3000 modèles.
Oui, ça touche 3000 modèles, sauf que... Je fais un track-back sur ce que tu dis, là, qui est bien, bien, bien important. Dans la première des choses, tu viens de définir que le programme de rachat volontaire n'est pas si volontaire que ça. Parce que ce qu'on dit, c'est un programme de rachat volontaire dans lequel, et dans la lettre que les gens ont reçue, c'est écrit en entête. Le gouvernement fédéral s'est engagé à compenser les propriétaires légitimes d'armes à feu et les propriétaires de magasins, donc du commerce. Et dans les paragraphes plus bas, on dit que le programme va fonctionner sur le principe de premier arrivé, premier servi, que si vous voulez risquer d'avoir une compensation, vous devez vous dépêcher à soumettre avant le 31 mars, évidemment, puisque les argents seront libérés ou du moins les gens auront de l'argent tant qu'il en restera dans le budget. Budget qu'on connaît déjà comme étant pas mal dépoussiéré juste avec la partie administrative. Et on termine en disant, il n'existe aucune garantie que les gens qui déclarent leurs armes recevront une compensation, même s'ils le font avant le 31. Alors, on vient de dire qu'on s'est engagé. Là, il n'y a plus de garantie. C'est premier arrivé, premier servi. On dit, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent dans le programme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que effectivement, tu cibles la fin de l'amnistie. L'amnistie, c'est une procédure dans la loi qui a été mise en place pour protéger les citoyens puisque le gouvernement n'était pas prêt à mettre en place le programme de rachat. Cette amnistie-là, elle donne jusqu'à la fin octobre pour ne pas être criminalisé. Alors, passé le 30 octobre, dans la nuit du 30 au 1er, vous ne vous transformerez pas en citrouille, là, je vous le dis tout de suite. Là. Mais passé le 30 octobre, vous pourriez être tenu criminel, donc vous êtes en possession d'armes illégales, donc c'est criminel. Alors, ça, c'est l'état des choses actuel, Yannick. Mais l'ensemble du Canada, des provinces et des corps policiers du Canada, à part le Québec, s'oppose au projet de loi, qui est un projet national fédéral. Alors, on est en démocratie. Alors, nous autres, ce qu'on dit aux gens, on ne vous propose pas de contrevenir à la loi. Mais le calcul très, très, très rapide des gens du CCFR, un intervenant du CCFR en matière de rachat d'armes à feu pan-canadien, si on estime dans le coin de 2,5 millions d'armes à feu, qui est le chiffre qui est rapporté par les associations et les clubs de tir, bien, il y a un montant qui est calculé de la part administrative. Le coût du policier, le salaire de la préposée à l'information, technicienne de bureau, les frais fixes de bureau, de rapatriement des armes à feu, c'est à peu près 6 000 $ par arme à feu de coût administratif. Alors, multiplier ce coût-là par la quantité d'armes qu'il y a au Canada, il n'y a pas assez dans le budget pour vous rembourser vos armes. Personne. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, si on va vraiment chercher toutes les armes qui sont listées, dont les clubs de tir et les chantiers ont dans leur liste à l'interne, que leurs membres ont entre les mains, eh bien, on parle plus d'un genre de 6, voire 8, voire 10 milliards juste pour le programme de rachat. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que c'est. C'est ce qui se passe présentement au travers de cette lettre-là qu'on a reçue, effectivement, que tout le monde a reçue, en poussant les gens. Et il faut que tu lises le paragraphe, là, honnêtement, là, si tu tombes dessus. Allez relire le paragraphe qui explique le principe de premier arrivé, premier servi. On dirait qu'une firme marketing a fait un « Hey, t'en achètes 2, je t'en donne 4. T'en achètes 4, je t'en donne 6. » Mais attention, il n'y en aura plus après-midi. C'est hyper pressurisé comme réflexion, le petit paragraphe qui explique que si tu ne te dépêches pas, puis dépêche-toi, ben tu risques de ne pas avoir d'argent. Ça, c'est ce qu'on a fait présentement. En fait, ce n'est pas un programme de rachat volontaire si on est pour criminaliser les gens. Puis le juste prix, l'équité, si on le veut, dans la promesse que le gouvernement a faite, on dit le gouvernement fédéral s'est engagé, eh bien, il ne la respecte pas. Et c'est là qu'on va amener les citoyens. Arrêtez de vous laisser berner parce que c'est des armes. Quand ce sera vos véhicules, vos skidoos, vos quatre roues, vos poêles à bois, vos quoi que ce soit qui viendront prendre, en vous promettant une compensation, bien, ils sont en train de le faire, là. Ils sont en train de promettre une compensation qu'ils ne remettent pas. Il y a des causes présentement, là. Hein? On a eu une première saisie qui s'est faite au Cap-Breton qui ont mis sur la scène publique comme étant une réussite monumentale. Ils ont saisi 25 armes à feu. Et finalement, il y a des gens qui sont en attente de procédure parce que finalement, ils n'ont pas eu l'argent qui était annoncé.
Tu vois, je suis en train de lire. Le programme fédéral canadien de rachat d'armes à feu de style ASSO fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi, les indemnisations étant traitées en fonction de la disponibilité des fonds. La phase de déclaration d'intérêt pour particuliers débute au printemps 2026 avec une date limite d'amnistie fixée au 30 octobre 2026 pour remettre les armes prohibées.
Et la dernière phrase que dans la lettre qui n'est pas dans l'article, c'est qu'il n'y a aucune garantie que vous allez être remboursé pour l'arme que vous déclarez aujourd'hui.
OK. Des armes de type d'assaut pour aller à chasse, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans leur véhicule présentement qui nous écoutent ou des gens qui sont à la maison sur leur cellulaire, exemple. Ils sont pas chasseurs. Fait qu'ils se disent, mais pourquoi les chasseurs ont besoin d'armes de type d'assaut pour chasser? Est-ce que tu peux leur expliquer, Martin?
Oui, très clairement. Dans les années 70, la loi C-150 de Pierre-Éliott Trudeau a rendu toutes ces armes-là illégales. Elles ne sont plus dans les mains des chasseurs et tireurs sportifs. That's it. C'est une supercherie d'un bout à l'autre. C'est un débat idéologique dans lequel on essaie d'entraîner les gens. Les armes de type d'assaut ont été reclassifiées comme étant prohibées par Pierre-Éliott Trudeau dans les années 70 au travers de la loi C-150. Ça n'existe plus depuis longtemps. Là, ce qu'on a visé, et si vous regardez, si vraiment vous voulez aller dans la liste, parce que la liste, là, on revient à ce qu'on disait tantôt, la liste concerne des armes qui ne commettent pas de crime.
Ouais.
Ce sont les chiffres qui appartiennent au gouvernement. Mais si on veut vraiment aller dans la liste, on va ouvrir la liste et on va se rendre compte que la liste est constituée d'items qui ont été choisis, soit pointés du doigt par le lobby québécois anti-armes, ou encore déterminés par leur apparence. Beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'apparence là-dedans. Il y a des armes là-dedans, beaucoup d'armes. là-dedans qui sont des calibres qui ne sont même pas suffisamment puissants pour être légales pour la chasse au grand gibier au Canada. Mais ils ont été qualifiés d'armes d'assaut ayant une puissance de feu suffisante pour faire des tueries monumentales.
Et qui a travaillé sur cette liste-là?
Et voilà. Moi, j'ai été avec Kate sur le comité permanent de la sécurité publique à Ottawa à parler avec les gens pour se rendre compte que les gens qui étaient là, les Taleb Nourmohamed de ce monde, et etc., il n'y avait personne de qualifié pour statuer sur les armes. La preuve, c'est que à ce moment-là, c'était le ministre de la Sécurité publique au fédéral, le libéral, c'était Mendicino qui était là à ce moment-là. Il a été foutu à la porte après ça par Trudeau. Là. La semaine qui a suivi notre comparution au CQ meeting, il y a un appel qui rentre ici du cabinet du ministre. Est-ce qu'on peut faire un meeting à huis clos? Après ça, on l'a libéré publiquement. Là. Le ministre m'appelait. Moi, là, je suis le petit coune au Québec là, qui est passé au CQ meeting avec ses experts d'armement. Dire là, vous avez donné de l'information à qu'on a de la misère à saisir et à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous aider à saisir cette partie-là d'information? On parlait à ce moment-là de la définition des armes qui allaient être rendues illégales. On était en amendement au G4 et G46. On disait une arme, toute arme à percussion centrale à mécanisme semi-automatique, ayant été conçue pour recevoir un chargeur, à ce moment-là, on disait de 5 munitions et plus. On a changé ces amendements-là par la suite. Et moi, j'avais levé en assemblée. La question a été conçue. Et qu'est-ce que vous entendez par « a été conçue » Parce que si on parle de la saturation au niveau de l'enregistrement de l'arme à feu au brevet ou dans sa conception, ben tout designer, tout ingénieur va définir une arme à feu pour qu'il puisse accueillir n'importe quel chargeur du marché. Si vous parlez de son état de mise en marché, c'est une chose qui est totalement différente avec les chargeurs qui sont...
En train de perdre Martin, on va en profiter pour faire une pause à moins que je sois capable de le ramener. Martin, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là. Il y a peut-être quelqu'un qui a tassé un fil Internet, il y a des Renault à l'autre bord, je m'en excuse.
c'est la joie du direct, mon ami. C'est pas grave, j'étais sur le point de faire une pause, mais on peut faire la pause lorsque tu auras terminé ton exposé.
Je vais être bref. Il faut juste comprendre là-dedans que je me suis ramassé en... meeting à huis clos avec ces spécialistes de l'armement-là, alors expliquer la différence entre la conception au niveau du dessin industriel d'une arme puis de comment on la décrit, de comment on sature qu'est-ce qu'elle pourra accepter par la suite et qu'on était sur le bord de rendre toute arme au Canada illégale si on le passait comme ça. Les gens qui ont créé ces listes-là sont des gens qui n'ont pas les outils pour créer ces listes-là et c'est la raison pour laquelle, au départ, on leur a dit « on veut être là pour vous aider ». Malheureusement, on a listé des armes là-dedans. L'autre exemple qui est parfait, on dit toute arme militarisée. La première qu'on a mise, c'est l'AR-15. L'AR-15 en disant, ben oui, automatic rifle numéro 15 ou assault rifle numéro 15. L'AR-15, c'est un Armalite rifle numéro 15 qui a été conçu pour faire de la déprédation pour les fermiers. C'est pas une arme militarisée. Par contre, la Lee Enfield et la SKS, on dit, ben, les peuples nordiques en ont besoin. C'est des armes à pas cher à acheter pour aller à la chasse au phoque aussi pour ça. Ça, c'est une arme qui a été créée pour les forces. Et on est sur des discours diamétralement opposés. On n'a aucune idée de ce qu'on fait présentement là-dedans. La liste est bourrée d'erreurs. La liste que vous avez reçue, là, le courriel que tout le monde a reçu, là,
ouais.
Si vous cherchez là-dedans, là, je vous donne un exemple. Là, la Mohawk 555, ben, la Mohawk 555, vous allez la trouver sur 4 appellations différentes. La 555, la Mohawk 555, puis il y a une autre appellation dont je ne me souviens pas. Là. Je pense que c'est Mohawk 555A. Et les 4 appellations différentes sur lesquelles vous allez trouver votre arme sont à 4 prix de rachat différents. Et là, on parle juste d'une arme. Là. Il y a un paquet d'armes.
C'est la même chose, là.
C'est la même affaire.
Puis la place de l'émotion dans ces décisions-là,
oui.
Est-ce qu'elle est bien présente? Parce que ça a l'air un peu irrationnel. Puis quand c'est irrationnel, c'est parce qu'on a laissé place à de l'émotion. Quand c'est rationnel, c'est parce que, bon, on a pris le factuel puis on a pris une décision en fonction du factuel. Mais l'irrationnel là-dedans, il est pour beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a des groupes de pression, des victimes qui ont vécu des choses atroces.
Bien, définitivement. Mais qu'est-ce qu'on dit à toutes les autres tragédies à grandeur du Canada, à part Poly se souvient? Là? Quel genre de respect on leur porte à eux autres? L'ensemble des décisions ont été prises à l'entour de Poly se souvient et de la mosquée de Québec. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et on est les premiers, dans les jours de commémoration, à parler de ces tristes événements-là. Et on est derrière ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'ensemble des autres tragédies? Avec armes à feu, avec couteau, avec autobus scolaire, avec ce que tu... Qu'est-ce qu'on dit à toutes ces autres tragédies-là? On dit non, on n'a pas le moyen parce qu'on est en train de mettre 2 milliards puis tous nos effectifs dans 1% de la cause du problème. Ça, c'est ce qu'on dit.
Pour ce qui est, juste en justice, là, pour établir un des membres du jury, là, on fait venir ces gens-là devant nous. Puis là, tu as l'avocat de la couronne, l'avocat de la défense qui pose des questions aux peut-être futurs membres du jury. Puis on leur dit, bon, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que ça vous stresse de venir en cours? Puis là, pouf, ah, ben, j'ai été victime d'agression sexuelle. Pouf, ça donne que c'est une cause où ça implique une agression sexuelle. Cette personne-là va être rejeté pour qu'il y ait un principe d'équité, pour que justice soit rendue, mais il faut qu'il y ait de l'équité. Parce que si quelqu'un commence avec un biais de « je suis une victime » puis « je suis très empathique envers les victimes », ce qui est tout à fait normal, soit dit en passant, d'être empathique envers les victimes, la personne va avoir un biais, donc ça va être un peu irrationnel, son truc. Fait que quand elle va arriver pour délibérer avec les autres membres du jury, ben elle va tenter de mettre son biais de l'avant parce qu'elle, elle l'a vécu, c'était quoi être une victime, puis elle va peut-être vouloir être plus sévère que ce que ça devrait. Donc, la place de l'émotion dans ces prises de décision-là, ça devient rationnel. C'est la raison pour laquelle on exclut ces gens-là comme membres du jury, parce qu'ils ont trop d'émotions. Ils ont vécu des tragédies. Puis justice ne sera pas rendue.
Sauf quand on a besoin dans une stratégie politique. Quand tu as besoin d'envoyer les gens se battre entre eux autres, puis se séparer, puis se diviser, tu vas faire la promotion de l'émotivité en allant chercher des points qui les touchent eux autres personnellement. Là, pendant ce temps-là, que tu as envoyé un os sur le terrain, puis que les chiens se battent tous pour le même bout d'os, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est de la stratégie politique. Jamais on aurait accepté une Nathalie Provost, une Heidi Rajan, une quoi que ce soit dans un processus décisionnel, encore moins la nommer sur le Conseil des ministres comme responsable de la sécurité de la nature, là, je ne me souviens pas de comment est-ce qu'ils l'ont nommée exactement, à venir donner son point de vue, alors qu'elle n'est pas objective là-dedans. Et c'est une personne excessivement intelligente. Là. J'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là, ils sont excessivement intelligents. Et ça ramène à ce que tu posais tantôt comme question. Oui, mais si moi, dans la vie de tous les jours, j'ai été témoin ou j'ai été victime, etc. Si vraiment ces gens-là auraient été dans le rationnel, dans le vrai rationnel, non pas dans l'idéologique ou dans le lobby, là, vous faites des petites recherches sur le lobby du tabac, vous allez vous rendre compte d'où viennent ces deux personnes-là, Mme Provost et Mme Rajan, là, et les salaires qui sont associés à ça. Si vraiment ces gens-là auraient été rationnels, ils veulent que des actes comme ça ne se reproduisent jamais. Nous autres, là, ça fait depuis le début du débat qu'on demande une chose. Mais oui, est-ce qu'on peut justement s'asseoir avec vous autres pour vous outiller? Est-ce qu'on peut justement, la communauté, là, on est entre 800 et 825 000 électeurs qui ont un PPA actif au Québec. Là. On connaît ça. Est-ce qu'on peut justement regarder les solutions pour que ce genre de triste événement-là ne se reproduise plus jamais? Est-ce qu'on peut travailler dans ce sens-là au lieu de faire de l'émotivité, une stratégie politique, puis de recevoir des appels de toutes les autres familles de victimes de la Polytechnique qui nous demandent, c'était madame là, ils vont-tu finir par nous laisser faire notre deuil?
Je comprends très bien. Tu voulais nous parler des cantons de l'eau. Que les cantons de l'eau? Il nous reste à peu près 5 minutes avant de passer à la pause, Martin.
Le canton de l'eau, c'est une municipalité qui est sur la terrasse du Parlement d'Ottawa, littéralement. Donc, c'est un petit peu au nord d'Ottawa. Pourquoi on parle de la municipalité de l'eau? Parce que dans le débat sur le programme fédéral de rachat des armes à feu, il faut savoir que le Québec fait cavalier seul présentement. L'ensemble des provinces, ou la grande majorité des provinces et des corps policiers, ont statué et s'objectent au projet de rachat des armes à feu, stipulant que ce n'est pas comme ça qu'on combat le crime et qu'on ne peut pas mettre tous nos effectifs là-dedans, d'autant plus qu'on va aller brimer notre relation avec le citoyen qui est grandement, qui est hautement précieuse. Le Québec ne l'a pas fait. Et au Québec, les policiers ne peuvent pas parler, ont les mains liées de par leur association nécessairement et de par la position du ministère de la Sécurité publique. Ben, il y a toujours des choses qui se passent en arrière-scène. Et là, ça passe par une autre voie. Ce qui est en train de se passer, c'est que les municipalités du Québec s'apprêtent, et beaucoup de municipalités au Québec, à déposer des motions pour s'opposer à l'application du programme de rachat fédéral des armes à feu sur leur territoire.
Wow, OK.
La première municipalité qui le fait, c'est la municipalité de l'eau, au nord d'Ottawa. Ils font ça mercredi cette semaine. Je sais qu'on est dernière minute, mais ce stock-là, ça bouge beaucoup, gang. Nous autres, là, on va faire 5h30 de route, là, parce que attention, c'est un comité spécial devant public qui a lieu mercredi soir. On veut en faire une représentation pour montrer aux autres municipalités que c'est faisable.
Fait
que
vous montez là demain matin.
On monte là demain matin. J'ai fait un post sur ma page Facebook professionnelle. Là. Les gens sont en train de s'organiser du covoiturage d'un commentaire en dessous pour monter avec nous autres là-bas. Les gens du CCFR vont être là. Il y a des représentants de l'industrie qui vont être là. On va vous faire des directs à partir de là-bas. On s'en va assister au dépôt de la motion qui demande à ce que la municipalité de Lowe s'oppose à l'application du projet fédéral de rachat des armes à feu, programme fédéral de rachat des armes à feu sur son territoire. Donc, de dire au corps policier, ici, on ne l'applique pas, littéralement. Hein? Perdez pas vos effectifs ici, allez vous battre contre le vrai crime, puis venez pas brimer votre relation qui est si précieuse avec le citoyen ici, on ne l'applique pas. Et là, du moment où on a parlé de ça une première fois dans un live ou peu importe par quel moyen de communication, je me souviens pas, il y a une soixantaine de conseillers municipaux à la grandeur de la province qui se sont mis à nous appeler, à dire hey, « nous autres aussi, on veut présenter la motion, là, je dis, ben voyons, c'est donc même malade ». Et là, ça s'est mis à rentrer en fou. Là, il y a plein de municipalités au Québec qui veulent avoir la motion que Lowe a préparée. On ne peut juste pas leur libérer avant l'Assemblée spéciale qui a lieu demain soir. Alors, après demain soir, là, ça va être le capharnaüm de courriel à envoyer cette motion-là à beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseillers, dont les maires et les autres conseillers sont déjà très, très, très au courant et attendent cette motion-là pour la voter positivement. Positivement. On parle là de 8 pour 1 qui s'abstient, 9 pour 1 contre. On parle des pré-votes qui se sont faits en assemblée municipale partout au Québec. Les municipalités s'apprêtent à s'opposer puisque le gouvernement ne le fait pas et que les policiers ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont les mains liées.
OK. Donc là, est-ce que le municipal l'emporte sur le fédéral dans ce dossier-là?
Oui, oui, parce qu'il y a une notion, c'est la même chose au niveau du déchargement d'armes à feu, par exemple. Tu as des lois fédérales en matière d'armes à feu, en matière d'utilisation d'armes à feu, mais chaque municipalité peut dicter à quelle distance des bâtiments ou de quelle façon, ou si tu peux faire une décharge d'armes à feu sur leur territoire. Ils peuvent légiférer là-dessus, littéralement. Ça leur a été donné. C'est quelque chose qui est déjà acquis par les municipalités. Puis d'un autre côté, ben, si tu parles de l'association ou l'Union des municipalités du Québec, tu parles d'un des plus gros percepteurs de taxes de la province. Fait que c'est sûr et certain. Là, ce qui se passe, c'est que dans chacune de ces municipalités-là, ben, on s'organise pour, dans ce secteur, trouver le maire qui est préfet de la MRC. Puis il monte le vote. Après avoir fait le vote aux municipalités, il monte à MRC. Tu comprends? Pour en arriver qu'à présenter au ministère de la Sécurité publique, là, on est en démocratie. Tu as une très grande partie de tes municipalités qui refusent que ce soit appliqué sur leur territoire. Les MRC ont embarqué là-dedans, les maires des MRC.
Ouais.
Et probablement que les députés vont embarquer fortement là-dedans aussi. Du moins, les conservateurs, c'est sûr et certain.
Tu nous tiendras au courant. On peut te suivre sur ta page Facebook?
Oui, à partir de ma page Facebook, là, on va embarquer en live à partir de là-bas, c'est sûr et certain. Là-bas, ça va être enregistré en audio. C'est sûr qu'on va vous diffuser là, sur nos différents Facebook là, l'audio de l'audition du dépôt de cette motion-là. Et par la suite, là, on va vous faire un genre de petit billboard là, qui va vous aviser de quelle municipalité emboîte le pas là-dedans. Je vous le dis, là. C'est hallucinant combien de municipalités ne veulent pas voir ce programme-là appliqué sur leur territoire, puis ils vont embarquer un derrière de l'autre. Mercredi, c'est important. Si les gens qui peuvent se déplacer puis venir nous rejoindre, là, c'est au 400 route 105, l'ancien poste de la SQ à Lowe. L'ancien poste de la SQ à Lowe, là, faites du covoiturage. Là. Moi, c'est 5h30 de Québec. Là, on a un pick-up de plein déjà, puis il y a plein d'autres chars qui se remplissent présentement. Là, on monte. On veut avoir une forte représentation. C'est le premier Gaulois. Et c'est important de le laisser passer pour donner le pas aux autres municipalités.
J'aime ça. On peut te retrouver sur Facebook. C'est ton Facebook professionnel, Martin? Martin oui. Bourget?
Martin Bourget, exactement. Martin Bourget, animateur. Là, c'est la plus belle façon, la façon la plus facile de retrouver ces informations-là.
On passe la soirée à parler de chasse et de pêche avec mon spécialiste chasse-pêche, Martin Bourget, qui est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Gravel dans le retour.
Monsieur Marchand, bonjour.
Salut à vous trois.
Comment on va passer à travers les 7 années de construction du tramway? C'est plus des broches, c'est un dentier, là. C'est quoi qu'on dit aux gens, mettons, à partir de la mi-mars?
Bien, d'abord, ce qu'on voulait faire, puis on voulait le faire vite, puis moi, j'insistais là-dessus, là, pour que les gens aient l'information.
Mais Monsieur Marchand, que ce soit dans le cas des hôpitaux, dans le cas des commerces, dans le cas des salles de spectacle, est-ce que c'est des gens qui ont été consultés avant qu'on arrive avec le résultat et les propositions d'aujourd'hui?
On fixe pas l'échéancier de travaux en fonction de dire qu'est-ce que le désagrément ça va faire. L'échéancier de travaux, il est là pour maintenir le coût.
Est-ce qu'on accélère les travaux par souci d'économie ou on veut être sûr qu'on soit trop avancé s'il y a un gouvernement qui veut backer?
Non, non, c'est vraiment l'économie. C'est vraiment la capacité de rentrer le plus vite possible les travaux.
Je propose que la Ville de Québec a eu des problèmes à communiquer ces informations dans les dernières années. Comment on va faire pour que ce soit beaucoup mieux?
On va faire des points de presse très fréquents pour répondre à des questions liées exclusivement à ça.
Parfait.
On a toutes les questions, puis avec vous autres, on va faire la même chose.
Merci, M. Marchand.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
Moins 25, ressenti moins 30? C'est pas ce qui va arrêter un Beauceron pour profiter de l'hiver. Cette semaine, Boulevard 102.1 et Destination Beauce vous invitent à écouter Marceau le matin pour profiter d'un moment en pleine nature dans la région. Vous pourriez gagner un séjour en Beauce d'une valeur de 650 $, incluant nuitée, délicieux repas et activités extérieures tripantes. Pour participer, inscrivez l'activité recommandée chaque jour au blvd.fm. Boulevard 102.1 et Destination Beauce, partenaires de vos escapades hivernales.
C'est la grande liquidation d'hiver chez Sale. Jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de vêtements et de chaussures. Sale, votre destination plein air, 100% québécoise.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
C'est le mois du camion chez Desjardins Autocollection. En février, offrez-vous le Ford F-150 2025 en financement 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, obtenez le Maverick 2026 à partir de 235 $ aux deux semaines en location. En février, le mois du camion, c'est chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Le SILA, wow! Entre ville et nature. Situé à Saint-Romuald et à 2 minutes des ponts, vous serez charmé. Près du parc La Relâche et de tous les services, les SILA 1, 2 et 3 n'attendent que vous. Promotion jusqu'à 2 mois gratuits. Informez-vous. Info à commercial silalevis.ca. Tous en cœur pour la Saint-Valentin au Mégaparc. Les 14 et 15 février, profitez des attractions, du maquillage et des mascottes tout en soutenant la Fondation En cœur au bénéfice des enfants atteints de maladies cardiaques. Chaque achat fait une différence. Détails omega-parc.com.
Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, t'invite à faire la fête à la zone Loto-Québec. Découvre le Palais de Bonhomme, où chaque pièce raconte une légende, et lève un verre à l'hiver au bar de glace SAQ, où il y a même un DJ en plein milieu du bar. Viens aussi vivre nos 5 soirées musicales, nos têtes d'affiche, Alicia Moffett, le Country Storm avec Francis de Grandpré, Matin, Qualité Motel et le Beach Party Weekend 91.9. Procure-toi ton effigie dès maintenant au coût de seulement 39 $ plus taxes dans les succursales brunes participante et au carnaval.qc.ca.
Céramix, c'est le plus vaste choix de porcelaine importée en ville. Format rectifié 24 par 24 à partir $1.69 et stratifié à partir $1.29. Pour le mois de la réno chez Céramix, venez nous voir en magasin pour faire le plein d'idées. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix.ca.
Courbatures, stress, blessures ou objectifs à atteindre, chez Kinatex Sport Physio, il y a un professionnel pour vous. Une approche humaine et des services adaptés à votre réalité. Chez Kinatex, votre vie active, on en prend soin. Pour continuer à bouger sans compromis, visitez kinatex.com.
Osez vous perdre dans le bleu infini. Ralentir pour mieux découvrir. Sentez-vous libre, vraiment libre. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien. Disponible en vol direct de Québec.
Le podcast hors série est de retour pour une deuxième saison. Les animateurs de Boulevard prennent le micro pour des entrevues vraies et approfondies. Des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir en ondes, mais qui méritent d'être entendues. En ondes les lundis à 19h sur Boulevard 102.1 et dès le lendemain sur les plateformes. Le podcast hors série présenté par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières. De la micro d'exception à la bière de soif parfaite. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine.
Le nouveau marché Terre et Mer d'alimentation première vient tout juste d'ouvrir ses portes à Sainte-Foy. Venez voir et choisir des protéines locales répondant aux plus hauts standards de qualité directement en succursale. Une variété de plus de 260 protéines à votre disposition. Profitez d'experts sur place pour vous faire découvrir la provenance de vos viandes et poissons tout en vous offrant les meilleurs conseils. Alimentation première, c'est local, de qualité, sous vide et surgelé. Venez faire un tour au nouveau marché Terre et Mer d'alimentation première au 2828 Chemin des Quatre Bourgeois.
Desjardins sait que dans une vie de propriétaire, il s'en passe des affaires. Il y a l'achat, les rénos, les petits imprévus ou les gros. Puis des fois, on vend parce qu'on veut gagner. ou plus petit. Avec du Proprio Confia et Renault Assistance, Desjardins vous offre maintenant une gamme élargie de services au-delà du financement et de l'assurance pour toute votre vie de Proprio.
Du Proprio accompagne
Hugo.
Ça va, Hugo?
Mais hein, j'ai vendu ma maison moi-même.
Toi-même?
Ben, avec l'aide de l'équipe du Proprio, ma coach Julie, mon notaire Cédric, mon évaluatrice Josée.
Donc, quand tu dis « j'ai vendu », c'est pas juste toi.
Oh non, mais c'est juste moi qui économise la commission, par exemple.
Du Proprio par Desjardins. Vendez bien accompagné.
Découvrez le RX350 2026 Premium chez Boulevard Lexus. Un équilibre parfait entre confort, performance et luxe. Profitez d'une location à partir de $688 par mois avec comptant. Certaines conditions s'appliquent. BoulevardLexus.com.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche est avec nous ce soir. Il reste encore quelques minutes. Martin, avec l'hiver qu'on a connu, bon, à certains endroits du Québec, là, il y a eu de la neige comme pas possible, surtout dans l'est du Québec. Quel genre d'impact que ça peut avoir, ça, cette neige-là, avec beaucoup d'accumulation sur la faune, les chasses qu'on aura peut-être cette année?
Elle est multiple. L'effet, elle est multiple parce que les secteurs n'ont pas tous reçu la même quantité de neige. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre faune s'adapte très, très bien à des quantités de neige comme ça. Nos chevreuils, nos orignaux commencent à taper leurs sentiers hivernaux dès les premières neiges. Parce que ce qu'il faut savoir au Québec, c'est que nos cervidés, nos grands cervidés, nos orignaux, nos chevreuils, ils vont ravager. Ce qu'on veut dire par ravager, c'est qu'ils vont se trouver un territoire généralement en couvert forestier où est-ce qu'ils vont tous se ramasser à la même place. Ils vont tous se ramasser à la même place. Et ils vont choisir généralement un territoire où est-ce qu'il reste la petite brindille tendre, où est-ce qu'il reste un petit peu de bouffe dans ces territoires-là, et ils vont aller ravager dans ce coin-là. Donc, ils sont pas très impactés tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de grosse croûte sur la neige. Et je m'explique. Des neiges qui sont relativement molles, l'une par-dessus l'autre, qui permettent à une patte de chevreuil, par exemple, de rentrer dans la neige et de ressortir de la neige sans problème, c'est pas une problématique. Les hivers qui sont rigoureux ne sont pas nécessairement les hivers où est-ce qu'il y a nécessairement plus de neige. C'est sûr qu'il y a une limite à la quantité de neige que peuvent accepter des chevreuils, des orignaux pour se déplacer. Et là, pensez toujours aux mathématiques. La dépense énergétique nécessaire pour aller chercher de la nourriture et pour revenir au ravage. Est-ce que la nourriture va me donner l'équité en termes de dépenses énergétiques ou pas? Mais dans les neiges moyennes comme on a là, là on trouve qu'on en a beaucoup, mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était pas mal tout le temps ça qu'on avait comme neige. Là.
Ah, quand j'étais jeune, Martin, je sortais de chez nous, les bancs de neige, ils étaient un peu plus hauts que les fils électriques. Nos parents nous disaient « Hey, va pas sur le banc de neige, c'est trop haut, c'est trop haut, on n'a jamais eu de la neige comme ça de notre vie. » Depuis ce temps-là, on a appris que dans le temps, ils ne ramassaient pas la neige, puis aujourd'hui, ils la ramassent. Ils ne soufflent plus sur les terrains.
Là, le bas blesse, c'est quand on va avoir des verglas. Ouais. Pendant l'hiver, qui vont créer des croûtes sur la neige. Alors, il faut comprendre qu'un peu comme les brise-pattes qu'on utilise pour barrer les orignaux de passer d'un territoire à l'autre, bien, quand le chevreuil ou l'orignal va rentrer sa patte et essayer d'avancer, ça vient couper au tibia. Il n'est pas capable d'évoluer. Ça, c'est problématique. Les hivers comme on a là, c'est beaucoup moins problématique. Là où est-ce que d'un fond, on a des problèmes avec la plus petite faune, c'est quand on a, comme il y a quelques semaines, là, des radous d'importance. Quand on a des gros radous, là, puis là, on voit des animaux...
Quand tu dis des radous, là, c'est des redous?
Des redous, excuse-moi. Okay. Redous. Hey, tu vois que hein, l'Office de la langue française va appeler tantôt. C'est correct. Elle doit. Des redous. Quand il y a des redous d'importance, la petite faune va souvent se réactiver. Souvent, de la faune qui est supposée faire dodo. Mais là, il y a une hausse majeure des températures. Puis là, on va voir certains animaux qui sont supposés être au repos ressortir. Là, on va se ramasser dans le problème avec certaines espèces animalières qui vont avoir de la misère à retourner hiverner et qui ne trouveront pas la nourriture nécessaire pour faire... Écoute, sortir de l'hibernation, là, ça demande énormément d'énergie. Retrouver à ce temps-ci de l'année la nourriture nécessaire pour avoir l'énergie pour faire le dernier bout d'hibernation, c'est presque impossible. Fait que c'est pas un hiver qui est dur pour les bêtes à proprement dit. À part que, dans certains cas, comme le raton laveur, vous avez sûrement vu passer dans les nouvelles, il y a des cas de rage chez le raton laveur qui sont recensés un peu partout sur le territoire. Et ça commence, comme ça existait dans les années 90, on avait une problématique là-dessus, ça commence à prendre l'expansion solide. Alors là, quand ils rentrent en hivernation, comme ici, là, ils sont rentrés 7-8 là, dans le gros manoir en avant, là, ça devait peser 30 livres chaque, là. Ils sont rentrés 7-8 faire dodo là-dedans. Là, c'est contamination croisée. Là, mais que ça ressorte au printemps, il y a beaucoup de ces animaux-là qui vont avoir la rage parce qu'ils vont avoir fait dodo ensemble. Hein. Quand ils se rapprochent, les animaux, ils se contaminent entre eux autres, comme nous autres. Hein. On a la proximité dans le temps de la COVID, on vous l'a appris, qu'est-ce que ça peut donner, là? Ou pas. La rage, ça, c'est plutôt, t'as comme pas le choix, là. T'es dans le trouble. Ça va occasionner des problèmes. Puis, petite parenthèse par rapport à ça, les gens dans les quartiers qui s'amusent à laisser de la nourriture pour les chats dehors, pour que les vôtres, ceux du voisinage, etc., puissent venir manger dedans. Là, je vais vous expliquer quelque chose de très, très, très rapide, de très, très, très simple, qui va faire que vous allez rentrer votre plat de bouffe puis votre plat d'eau dans la maison. La rage, ça se transmet par liquide biologique. Les ratons laveurs qui viennent boire dans l'eau de votre chat la nuit, qui viennent manger dans les croquettes de votre chat, même si, oh non, il n'y en a pas chez nous. Votre chat va manger là-dedans après, là. Minou, là, ça se peut que vous soyez obligé de le faire euthanasier parce qu'il va prendre la rage. Rentrez ça en dedans. Parce que d'un côté, vous motivez les ratons laveurs, vous les engraissez, puis vous les gardez à proximité de vos bêtes. Un peu comme les coyotes dans certains secteurs, comme ici, qui ont la gale présentement. Là. Eh bien, ces animaux-là, et cet hiver, vont s'être partagés beaucoup, beaucoup d'amour puis de messages de rage. Là. Ça va être problématique à la sortie.
Incroyable. Puis d'ici là, ben, on peut faire de la pêche sur la glace encore pour un bon bout de temps. Si tu avais des spots le fun pour les gens, je te dirais, entre Montréal, Trois-Rivières, Drummondville et Québec, y a-tu des spots que tu vois là-dedans qui pourraient être intéressants pour les auditeurs?
Bon, oui, Lac-Saint-Pierre, il y a des places, vous pouvez payer pour aller sur la glace, qui vous prépare la cabane, les trous, etc. Sur le fleuve, je pense juste à Jux Fishing, c'est J-O-X, si je ne me trompe pas, Jux Fishing, là, eux autres qui font du doré dans des cabanes sur le fleuve, justement en hauteur, peut-être entre Montréal, Trois-Rivières, dans ce secteur-là, ou entre Trois-Rivières puis ici. Vous avez l'auberge en Boron, Sainte-Christine d'Auvergne. Vous avez aussi à Duchesnay, il y a un village de pêche sur glace à Duchesnay. Il y a des places partout pour aller à la pêche sur glace au Québec. Partout, partout, partout. Tapez pêche sur glace sur Google, vous allez vous trouver un spot. Puis ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que c'est la seule fois dans l'année où est-ce que vous n'avez pas besoin d'embarcation, de gilet de flottaison, de moteur à essence, de gaz, de batterie, de quoi que ce soit pour aller au large.
Oui, puis tu sais, moi, mon gars, il est allé à la pêche la semaine dernière, pêche sur glace avec son école, puis il est revenu avec des histoires de pêche là où les gars se disaient qu'il en avait échappé un vraiment gros, là. Papa, il était vraiment gros, le poisson. Ça laisse des beaux souvenirs, la pêche sur glace. Surtout si t'es capable d'amener du chocolat chaud, puis de rendre le moment festif à l'intérieur de la petite cabane. C'est le fun. Apprenons ça à nos enfants. C'est vraiment du beau temps qu'on peut passer avec eux. Sinon, ben d'ici là, on te suit sur les réseaux sociaux. Ton Facebook, c'est Martin Bourget. Je vois que tu as quand même une belle crowd là-dessus. Si on veut voir vos émissions, monsieur, on vous voit à quel endroit?
Tous les jeudis soirs, 21h, sur les ondes de Télémag. Maintenant aussi sur Sportsman Channel, Carbon TV et My Outdoor TV. Donc, quelques millions de nouveaux foyers américains qui reçoivent notre émission avec le sous-titrage en anglais un peu partout aux États-Unis. Fait que les Snowbirds, pognez-nous sur Sportsman Channel, My Outdoor TV ou Carbon TV de votre côté. Ailleurs, c'est Télémag, évidemment. Sinon, sur notre chaîne YouTube, venez vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous voulez avoir les nouvelles émissions qui rentrent au fur et à mesure et être notifié. C'est la meilleure façon. Si vous nous trouvez pas, écrivez aventure chasse-pêche sur Google.
Tout simplement.
Google fait une très bonne job, il va vous le trouver.
Je souhaite à tous une excellente soirée, de même qu'à toi, cher ami. Puis on se reparle dans les prochaines semaines. Puis ben, bonne chasse et bonne pêche tout le monde. En vous rappelant que pour suivre Martin, allez directement sur Martin Bourget sur Facebook. Vous allez le retrouver assez facilement.
Marceau, le soir.
À l'occasion du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, Boulevard 102.1 vous invite les 14 et 15 février à Place Fleur-de-Lys pour le FDL Fest. Terrain, patinoire gonflable de mini-hockey, un mini-bâton de hockey Trudel offert aux 500 premiers joueurs, mascotte et plusieurs prix à gagner. Tout pour avoir du fun. En plus, l'escouade Boulevard sera sur place le 14 février avec animation et jeux. Vous ne pouvez pas manquer ça. Pour voir la programmation complète, rendez-vous au fdlcentrecommercial.com. On se voit à Place Fleur-de-Lys.
en affaires depuis près de 40 ans. Portes et fenêtres Québec vous fait découvrir la nouvelle gamme Fenplast qui change la donne sur le marché. Portes et fenêtres Québec, Beauport, Québec et Lévis.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, les ailes de poulet Flamingo format sélectionné sont à 6,95 puis les framboises 170 grammes sont à 2,44. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 11 février en magasin et en ligne. Détails au supercé.ca.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec au 2400 avenue Dalton. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
Propriétaire d'une maison avec une fosse sceptique? Faites confiance à Sanivac. Notre équipe vide et entretient les fosses sceptiques dans ta région avec un service fiable, rapide et professionnel depuis 1961. Sanivac s'occupe de tout, ta vidange et même le rappel pour votre prochain entretien dans 2 ans. Service d'urgence 24/7 et réservation dans la même semaine. Pour un service simple, propre et efficace, choisis Sanivac. Une entreprise familiale d'ici, au service de vos fosses sceptiques depuis 65 ans. Choisis Sanivac.
Pendant que vous fêtez les deux